Mesdames, Messieurs,
soyez les bienvenus. Caton le censeur disait qu'il ne pouvait vivre en compagnie d'un homme dont le palais était plus sensible que le cœur. Il serait intéressant de savoir comment il aurait jugé le comportement adopté par trois célèbres juristes romains pour échapper aux contraintes d'une loi qui limitait le luxe culinaire. Ce que ces trois juristes ont cocoté pour résoudre le dilemme sera le point d'arrivée de la séance d'aujourd'hui. Pour contextualiser leur démarche, nous dresserons d'abord un arrière-plan plus large qui nous permettra en même temps de nous emparer d'un volet important de la législation romaine, celui des lois consacrées au bon usage de la richesse. J'ai évoqué lors de notre dernière séance la chronologie de la décadence, de la chute, de la corruption, c'est-à-dire les étapes de la pénétration de la richesse à Rome et dans son sillage du luxe. Peut-être que vous vous rappelez de ce tableau. Il s'agissait d'un luxe d'origine étrangère, se disaient les Romains, apporté dans la cité par les armées de retour d'Asie et de Grèce, où elles avaient subjugué des civilisations plus riches et plus inclines à la dissipation, selon le point de vue, bien entendu, des vainqueurs. Alors, vous voyez en gros qu'il s'agit d'étapes différentes parce que chacun des auteurs avait, je dirais pas au fond d'une façon essentielle, mais surtout en fonction du contexte, de l'enjeu, de la narration, du récit, de la page spécifique où ce type d'informations était donné. Donc, ils avaient des opinions différentes quant à l'entrée et de la richesse à Rome et à propos du commencement du luxe, mais il s'agit en gros d'étapes qui ont toutes eu lieu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc après la Deuxième Guerre punique et lors de la conquête de l'Asie et de la Grèce. À ce calendrier de la corruption, on peut en opposer un autre, un contrepoint, celui des lois qui essayent de la freiner. Nous allons le parcourir plus en détail, donc vous allez revoir plusieurs fois ce tableau et les pages qui suivent de ce tableau, donc vous voyez une série de lois qui commence à peu près avec un prélude sur lequel nous allons nous arrêter sous peu, un prélude au 5e siècle avec les 12 tables, mais en gros, il s'agit d'un calendrier en parallèle avec celui de la pénétration de la richesse. On remarquera d'emblée, avant d'entrer dans le détail, que cette série de lois s'opposant à la corruption de mœurs confirme une idée ancienne, c'est-à-dire que la législation est intimement liée au vice. Cette idée implique l'archétype selon lequel l'humanité aurait connu un âge d'or où il n'y avait qu'harmonie et vie paisible, et qu'ensuite le vice n'a cessé de l'entraîner dans une chute progressive. Alors, il s'agit d'un archétype, je pense, vraiment, qui appartient à tout et chacun, c'est-à-dire, c'est un peu toujours l'idée de la nostalgie qu'on applique à sa propre biographie et qu'on applique à l'histoire. Donc, dans ce cadre, les lois ne seraient que l'autre visage de cette corruption progressive. Et c'est une idée dont, parmi les Romains, se fit le porte-parole, par exemple, Ovide. Aurea prima satas est, etas, quae vindice nullos, ponte sua, sine lege fidem rectunque colebat. Pena metusque aberant, nec verba minantia, fixo ere legebantur, nec supplex turba timebat, iudicis ora sui. Sederant sine vindice tutti. Le premier âge à voir le jour fut l'âge d'or qui, sans vengeur, spontanément, sans loi, pratiquait la bonne foi et les droits. On ignorait punition et crainte, on n'élisait pas de mots menaçants gravés dans le bronze, la foule suppliante ne redoutait pas le visage de son juge, mais on vivait tranquille, sans besoin de quelqu'un qui nous venge. Alors, il s'agit d'une représentation très concrète, car les lois à Rome étaient gravées dans le bronze et affichées en public. Elles formaient donc un paysage écrit, un peu effrayant, dans lequel le citoyen se promenait. Donc, vraiment, lorsque Ovide rédigeait ses vers, on pouvait se promener, pas seulement à Rome, mais dans beaucoup de villes sous le pouvoir de Rome, et être accueilli par les mots menaçants d'une loi, de plusieurs lois. Celle-ci est une loi un peu postérieure, c'est-à-dire c'est une loi du 69 après Jésus-Christ. C'est la loi qui donne les pouvoirs impériaux à Vespasien. C'est une loi qui a été bien étudiée par John Scheid. Donc, dans ce contexte, c'est une loi assez emblématique par la qualité de l'inscription. Alors, cette prima etas, cet âge premier de l'humanité à son origine, observait la loyauté, la fides, et le droit, la droiture, le juste, mais de façon spontanée. Nous en tirons donc une conclusion un peu surprenante. Les lois, les juges sont des institutions qui accompagnent la déchéance de la vie humaine. Elles sont autant des symptômes du mal. En somme, dans l'imaginaire antique, les lois naissent indissolublement liées à leur contraire, le délit. Mais je pense qu'il s'agit d'une connexion que nous sentons, nous aussi, inconsciemment, encore bien présente aujourd'hui. Le cas du luxe est très éloquent pour illustrer ce rapport biunivoque, car le luxe est souvent représenté d'une façon quantitative. Donc, il y a l'idée d'une croissance du luxe, et on peut s'imaginer très bien une croissance, une augmentation du nombre des lois qui cherchent de le freiner. Donc, cette idée quantitative est assez adaptée pour renforcer cet archétype. Alors, venons-en donc à cette série que je vous ai présentée dans le tableau auparavant, qui porte sur le bon usage de la richesse, ou, dit autrement, qui limite la liberté économique des anciens. Alors, je préfère utiliser ce mot, cette définition, loi qui porte sur le bon usage de la richesse ou qui limite la liberté économique. Je le préfère, ce nom, à celui de loi somptuaire, parce que les lois somptuaires ne sont qu'une disons qu'une espèce, qu'une partie de cet ensemble. Et à mon sens, il faut le considérer dans sa globalité. Alors, le premier aspect qui nous frappe, c'est que dans l'ensemble, ces lois imposent des limitations assez sévères. C'est-à-dire que, selon notre sensibilité, il s'agit de véritables interférences dans la vie des citoyens. Mais pour mieux les comprendre, je pense qu'il faut, avant de les examiner, il faut rappeler au moins deux idées, deux phénomènes au préalable. Alors, le premier constat, la Rome républicaine est un système politique démocratique. Ce système avait d'ailleurs été déjà introduit, établi sous les rois, on l'attribue à Servius Tullius. La société était divisée en classes censitaires qui servaient à organiser l'armée en fonction de critères économiques. Donc, c'était la première fonction de ce classement selon la richesse individuelle. En vertu du principe d'égalité géométrique qui régissait ce système, la République romaine se vit et se présente comme un régime démocratique dans lequel la quantité d'honneurs reçus est conditionnée par le niveau de richesse qui autorise les citoyens à participer avec plus ou moins de poids à la vie politique militaire de la cité, devoirs inclus, c'est-à-dire la durée du service dans l'armée, le type d'armement dont il faut se pourvoir, et aussi la charge des impôts. Donc il y a un principe d'égalité géométrique, plus d'honneurs, mais aussi plus de devoirs. Alors, s'agissant d'un principe démocratique, disons, basé sur la richesse, nous pouvons en conclure qu'à Rome, la richesse compte et est très prisée, donc même du point de vue politique. Deuxième constat, comme vous pouvez le voir en haut, déjà la loi des 12 tables au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc je vous ai parlé plutôt du 2e siècle avant Jésus-Christ, mais déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, la loi des 12 tables contient au moins deux normes sur le bon usage de la richesse. Bien entendu, le contexte du 5e siècle n'était pas celui qui suit à la Deuxième Guerre punique et qui accompagne la conquête de l'Orient. Mais il y a des principes, il y a une mentalité qui se dessine déjà au 5e siècle. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir dire que le principe de la limitation de l'usage de la richesse n'était pas quelque chose de ponctuel, de seulement circonstanciel, mais qui était, d'une certaine façon, déjà inscrit dans l'ordre juridique, dans les 12 tables, qui demeurent toujours, disons, un code, pas seulement législatif, mais des valeurs. Alors, il s'agissait d'abord d'une longue série de prescriptions limitatives des dépenses funéraires qui touchent plusieurs aspects des obsèques, le bûcher, les vêtements qu'on pouvait utiliser, montrer lors des obsèques, le nombre des musiciens qui pouvaient être conviés, pas plus de 10 joueurs de flûte. Aussi, les manifestations excessives de deuil, interdiction de l'effusion de sang et des hurlements rituels, que les femmes ne se déchirent pas les joues, dit le législateur du 5e siècle, défense des funérailles multiples, des libations abusives, défense de faire brûler de l'encens, de l'usage de bandelettes démesurées, d'honneurs exagérés et immérités décernés aux défunts, et enfin défense de l'enfouissement stérile d'objets d'or. À ces propos, Cicéron observe qu'il est bien conforme à la nature, donc il s'agit d'un principe, disons, qui dépasse la contingence, c'est conforme à la nature de supprimer toute distinction de fortune dans la mort. Il s'agit, nous allons le voir, pas dans les détails, mais je dirais dans l'esprit, de limitations qui ont quelque chose à voir avec la limitation du luxe culinaire et surtout des banquets. Deuxième limitation à la liberté économique introduite par la loi des 12 tables. Vous la connaissez déjà, donc vous êtes des auditeurs très fidèles, je vous en remercie. Et donc il faut qu'on se rappelle, qu'on se souvienne de l'interdiction du prodigue. Vous vous souvenez, il y avait la possibilité, la faculté, activée par les proches, d'interdire, par les biais du prêteur, l'administration des biens par celui qui les dissipait. Et c'était très intéressant, je vous ai montré la formule qu'on utilisait pour interdire au prodigue l'administration de ces biens. On disait, ce sont les biens que tu as reçus de tes ancêtres et qu'il faudrait que tu transmettes à tes descendants. Et donc, c'est cette idée d'une chaîne qui ne doit pas s'interrompre qui mobilise, qui anime cette disposition, l'idée de l'interdiction du prodigue. Alors, donc nous avons vu ces deux principes. Il y en aura un troisième que nous allons évoquer un peu plus tard. Il faut, disons, certaines façons, essayer de comprendre la coexistence de ces deux principes que je viens d'évoquer. D'une part, la société romaine est articulée en classes établies en fonction de la richesse. Donc, la richesse est presque à la base de la hiérarchie sociale. D'autre part, dès les 12 tables, on intervient pour régler l'usage de la richesse. Comment est-ce qu'on sort de cette contradiction apparente ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une vraie contradiction, c'est que, d'autant plus qu'on donne de l'importance à la richesse, il faut veiller à qu'on en fasse un bon usage. Un bon usage, c'est-à-dire de ne pas la gaspiller pour ne pas perdre, pas seulement la position qu'on obtient individuellement dans cette hiérarchie, mais aussi afin que la base, le socle même de la société romaine, de ce système politique, ne soit pas secoué. Donc vous voyez, la limitation de la richesse doit être comprise, j'en suis convaincu, par rapport à ce type de système démocratique. Donc, il s'agit de facettes d'un même principe. Alors, examinons maintenant, à partir de ces prémices, mais nous le ferons très rapidement, les lois qui se succédèrent à partir de la Deuxième Guerre punique, à la fin donc du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui se succédèrent jusqu'à l'époque d'Auguste. Comme je l'ai dit, on parle à ces propos des lois somptuaires, mais il faut, à mon sens, élargir un peu le cadre. Les lois somptuaires proprement dites sont dans la colonne de gauche, et donc on va les traiter dans ce cadre plus large. Alors, le groupe qui ouvre la série doit être interprété, à mon sens, en rapport avec l'urgence de la Deuxième Guerre punique elle-même. Donc, la guerre punique débute en 2018 et c'est aussi la date de cette première loi, la Lex Claudia, qui défendait à tout sénateur d'avoir en mer un navire qui renferma plus de 300 amphores. Alors, 300 amphores correspondent à la limite de volume qui permettrait encore le transfert de marchandises des domaines agricoles des sénateurs eux-mêmes vers le marché, mais c'est une dimension qui ne permet pas de faire du commerce à grande échelle. Alors, pour vous donner un exemple de ce que c'était en revanche un navire commercial, voici l'épave romaine assez célèbre de la mandrague de Giens, qui a été fouillée par André Tchernia, Pierre Paumé, Antoinette Hénard. C'est un grand voilier de commerce provenant de Terracine, au sud des Roms, et qui a fait naufrage dans les années 75-50, donc c'était l'époque de la splendeur de Cicéron, avant Jésus-Christ, à quelques brasses du petit havre de la Mandrague, situé au nord-ouest de la presqu'île de Giens, donc au sud de Toulon. Bien entendu, la presqu'île de Giens, les îles d'Or, notamment Porquerolles, étaient des repères incontournables sur les routes du commerce maritime. Cette épave a été découverte en 1967 par l'École des plongées de la Marine nationale. L'épave gîte au fond, sur un fond d'une quinzaine de mètres. Alors, comme vous le voyez, ce navire a transporté des amphores qui sont encore en place, en partie. Et donc, il y a cette reconstitution qui s'appuie sur, disons, des images des voiliers comme celui-ci de cette mosaïque. Donc, vous voyez à peu près comme les amphores étaient placés dans le navire. Alors, à partir des dimensions et du dessin du navire, on a calculé, comme je vous le disais, que les amphores transportées par ce navire étaient environ 6 000. Alors, on peut comprendre que la loi Claudia, la loi Lex Claudia, limitait bien plus les dimensions des navires permis aux sénateurs, parce qu'il s'agit d'un vingtième, 300 amphores, pas plus que ça. Alors, il est bien évident que c'était un moyen concret d'interdire aux sénateurs les commerces maritimes. On discute bien entendu de l'objet de cette interdiction. Peut-être on peut convenir qu'il s'agissait de minimiser la distraction éloignant les sénateurs de la vie des loisirs nécessaires à la gestion des affaires publiques, ainsi qu'à prévenir la corruption et les conflits d'intérêts, et surtout de prévenir les revers liés au danger de la mer, comme ce naufrage le montre. Donc c'était encore une façon de limiter le risque de changement qui pouvait atteindre la hiérarchie sociale. 3 années plus tard, arrive, après la Lex Claudia, arrive la Lex Oppia, qui interdit aux femmes de posséder plus d'une demi-once d'or, soit environ 13,5 grammes d'or. Aujourd'hui, si j'ai pas mal calculé, on le payerait approximativement 700 euros. Donc, on interdit de porter plus que 13 grammes d'or, de porter des vêtements multicouleurs, notamment des vêtements rehaussés de pourpre, de circuler en véhicule attelé dans la capitale, donc pas des voitures de luxe, sauf que pour se rendre à une cérémonie religieuse officielle. Alors, il s'agit d'un plébiscite, c'est-à-dire d'une loi votée non pas par le peuple tout entier, mais par la plèbe seulement, proposé par un tribun Gaius Oppius, mais, nous disent les sources, en accord avec le Sénat et l'opinion publique, pour éviter les manifestations qui heurtent l'austérité générale en temps de guerre. Donc on comprend très bien que le mobile était celui de l'austérité. À mon sens, 2 autres dispositions sont interprétées plus ou moins dans le même sens, même si avec une inflexion quelque peu différente. Alors, d'abord, la Lex Publica de Ceres, c'est mystérieuse, mais qui, paraît-il, libère les pauvres de l'obligation de fournir à leur patron des offrandes coûteuses lors de la fête des Saturnales. Alors, donc, il y avait l'usage de s'échanger des dons, donc comme, un peu comme à Noël. Donc, imaginez-vous une loi qui vous interdit de donner des cadeaux en dessus d'un certain montant. Bon, ça serait un soulagement, bien entendu, mais vous comprenez aussi que pour notre sensibilité, c'est quelque chose d'assez étrange. La loi Cincha 204, toujours en temps de guerre, vise plus largement à empêcher les clients moins fortunés de s'appauvrir à cause des cadeaux coûteux offerts à leurs mécènes, et aussi de payer ceux qui rendaient des services, par exemple, en tant qu'orateur, qu'avocat. Donc là, vous voyez un autre atout du système romain. Il n'y avait pas seulement des classes qui étaient définies, qualifiées en fonction de la richesse, mais il y avait aussi des patrons et des clients. Donc il y avait des clientèles qui se regroupaient autour d'aristocrates qui pouvaient, bien entendu, offrir quelque chose, des bénéfices, des services, de façon matérielle ou intellectuelle, à ceux qui orbitaient autour d'eux. Et donc, il y avait, bien entendu, des échanges, un système de dons caractérisait ce type de rapport. Donc la loi Cincha, d'une façon qu'on ne connaît pas très bien, mais a limité ce système. Et je pense qu'on peut dire que la Lex Marcia de Usuris, probablement un peu plus loin, un peu plus tard, a à peu près le même objet. Dans ce cas également, elle réactive un interdit qui était déjà dans les 12 tables. Parce que déjà les 12 tables établissaient, dans une mesure qu'on n'a pas cessé d'étudier parce qu'on ne comprend pas exactement quel était le taux, on pourra toujours se référer pour ce qui concerne les 12 tables à l'édition magnifique de Michel Imbert, mais en tout cas, il y avait un taux d'intérêt maximal imposé et il y a eu plusieurs fois des lois qui ont réactivé ce type de limite. Donc vous voyez que la loi des 12 tables toujours est une fonction matricielle par rapport à ce type de dispositions successives. Mais il faut également rajouter, à mon sens, une autre série de dispositions, plus ou moins de la même époque, même si dans ce cas également on ne connaît pas très bien la date, donc entre 204 et 169 avant Jésus-Christ. Il s'agissait des lois qui limitèrent la liberté de disposer de ses biens par testament. Alors, vous en voyez la description par le juriste Gaius, il nous dit que auparavant, au temps des 12 tables, on va y revenir sur cette question. Autrefois, il était certes licite de dilapider tout le patrimoine à legs et en affranchissement, c'est-à-dire en libérant les esclaves, et de ne laisser à l'héritier que le vain nom d'héritier. Cela paraissait autorisé par la loi des 12 tables, qui indique dans les termes qui suivent que toutes les dispositions de testament relatives au patrimoine doivent être respectées. Donc là, vous voyez une citation de la loi des 12 tables qui dit « comme on aura disposé de son patrimoine, que tel soit le droit », c'est-à-dire « ut legacit ita ius esto ». Ce qu'on aura dit dans le testament, ça doit être appliqué. C'est comme c'est valable en droit. Alors, donc, ça a été pris comme un principe d'autonomie complète. On pouvait disposer de son patrimoine. Donc, il y avait des pratiques de dispersion de son patrimoine par des legs. Donc, on choisissait un héritier, mais on faisait beaucoup de legs pour maintes raisons, mais toujours un peu dans ce sens de reconnaissance de clientèle. Donc il y avait une sorte de dissipation un peu stérile. Et donc, on a essayé, à partir de la Lex Furia, de limiter cette liberté. Mais comme Gaius nous le raconte, la Lex Furia n'a pas vraiment arrêté le phénomène parce qu'elle imposait une limite, disons un montant pour les legs, et donc ce n'était pas difficile de contourner la loi parce qu'on multipliait les legs. Et donc, on ne laissait rien ou presque à l'héritier. Donc, il a fallu deux lois successives, l'ex Vocogna et l'ex Falcidia, en 161 et à l'époque du deuxième triumvirat, pour arrêter les phénomènes. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout la lex Vocogna, parce qu'elle a interdit aux membres de la première classe du système timocratique de nommer comme héritier une femme. Là encore, vous voyez quelle était l'idée. L'idée, c'était qu'il fallait transmettre le patrimoine en garantissant la reproduction de la hiérarchie et bien entendu dans la hiérarchie. Le rôle public des femmes était très limité. Pas le rôle privé, mais le rôle public. Donc, on ne pouvait pas, disons, faire sortir un patrimoine du domaine d'un homme pour le placer dans dans les mains d'une femme. Et encore une fois, c'est la fonction politique de ce patrimoine qu'on vise, de protéger. Alors, je vous ai dit, bon, les 12 tables ont joué un rôle matriciel dans toutes ces limitations. Comment se fait-il que ici, les lois de 12 tables, au contraire, ne limitaient pas la transmission de l'héritage, et ensuite, on a dû les limiter. Alors, d'abord, faut pas croire que la loi de 12 tables ait tout dit au 5e siècle, mais il faut en tout cas prendre en compte aussi d'autres dispositions de la loi de 12 tables, et je pense que beaucoup d'entre vous ont tout de suite pensé à l'interdiction du prodigue. C'est un peu la même question. Alors, vous vous souvenez, l'interdiction du prodigue, on ne pouvait pas gaspiller, on ne pouvait pas dissiper son patrimoine qu'on avait reçu des ancêtres, parce qu'il fallait le transmettre à ses descendants. Donc cette idée qui est dans les 12 tables, d'une certaine façon, a conduit à une limitation de la liberté que la loi des 12 tables avait accordée au testateur. Donc je pense que dans la loi des 12 tables, il y avait effectivement cette liberté, mais il y avait aussi le principe qui a été développé ensuite. Alors, maintenant, très rapidement, on arrive aux lois somptuaires au sens strict. Et on peut bien voir qu'elles commencent non pas en temps de guerre, mais après. Donc elles accompagnent effectivement l'arrivée de la richesse. Donc le mobile n'est plus celui de l'austérité, celui de maintenir la cohésion, de ne pas appauvrir les gens qui étaient un peu sous le joug de la clientèle, mais maintenant, il y a l'idée de limiter le luxe en fonction, en raison, en rapport avec l'arrivée de la richesse. Alors, donc, je le dis tout de suite, je pense que l'interprétation, la bonne interprétation, c'est celle qui a été, par exemple, proposée par Emilio Gabba et d'autres historiens. C'est vraiment l'idée de ne pas modifier les rapports de force dans l'élite romaine. On va le voir. Je ne peux pas, bien entendu, vous expliquer, vous présenter toutes les lois. Il y en aura aussi d'autres jusqu'à l'époque d'Auguste. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas même nécessaire parce qu'elles ont été très bien étudiées, notamment par Marian Coudry dans la base des données Les Ports et par un chercheur espagnol, Francisco Javier Casinos Mora, en 2016. Alors, je veux m'arrêter notamment sur la loi Fannia. Alors, vous allez entendre plusieurs fois ce nom. C'est une loi qui fut votée en 161 avant Jésus-Christ, donc 22 ans après la première loi de la série qui s'appelait loi Orchia, 1181. Donc, permettez-moi de revenir en arrière. Donc, la première, c'est celle-ci, 22 ans ou 183. Et donc 22 ans après, c'est la Lex Fannia. Alors, elle visait à restreindre les luxes de la table, en général, par une série de dispositions méticuleuses, de différents types, qu'on essaye de reconstituer à partir de sources différentes, dont certains grecs, donc, qui impliquent l'utilisation d'une monnaie d'une espèce différente. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, le travail a été fait et je vous invite à visiter le site que vous voyez ici. Donc vous pouvez le chercher sous le nom Lepor, loi Lex Populi Romani. C'est un projet de recherche qui contient toujours un cours de travail qui contient les lois publiques de Rome avec des notices très détaillées. Donc j'utilise, comme je vous l'ai dit, la reconstitution de Marianne Coudry. Alors, vous voyez les dispositions. D'abord, il y a la limitation du nombre de convives. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui nous aurait plus choqué il y a quelques années, mais avec l'expérience dramatique des confinements, on a appris qu'on peut avoir des limitations du nombre des convives. Et vous voyez, on discute s'il s'agit d'une limitation de la liberté. Donc vous voyez, on discute si dans un cas d'urgence évidente comme l'urgence sanitaire, c'est justifié de limiter les convives, ce que je pense, c'est absolument justifié. Mais les Romains, ils acceptaient qu'en général, sans aucune urgence sanitaire, on pouvait limiter le nombre de convives. Donc vous voyez que les mentalités sont différentes. Alors, on pouvait convier 3 personnes extérieures de la maison. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, seulement les parents, ou comme je vous ai dit que les aristocrates avaient une clientèle, donc des gens qui habitaient près d'eux, donc 3 personnes extérieures à la maison les jours ordinaires et 5 le jour des marchés. Le jour du marché, c'est à peu près notre dimanche. Après, il y a une limitation de la dépense effectuée pour chaque repas. Alors, il y a des chiffres. 100 as par jour pour les ludi romani, les ludi plebei, les saturnales, et d'autres fêtes que les lois nommaient. Donc, pour les jours de fête, il y a une dépense un peu plus ample. Après, pour 10 autres jours chaque mois, on pouvait dépenser 30 as et 10 pour les autres 20 jours du mois. Elle interdit enfin certains mets. Pline cite les volailles engraissées. Selon lui, la loi Fannia permettait de ne servir en fait d'oiseau qu'une seule poule qui ne soit pas engraissée. Et Macrobe cite le porc farci. Également, il y a une limitation de la dépense. 15 talents, donc vous voyez, c'est une mesure grecque, par an, pour les produits fumés, sans doute viande et poisson, et les légumes, selon, disons, Athénée. Alors, on ne peut pas parler de nourriture sans la montrer. Ici, vous voyez presque tout ce que nous venons de mentionner. C'est une mosaïque qui a été retrouvée dans la dite ville Numisie sur la voie Appia, près de Rome. On peut commenter que la somme allouée, les 15 talents qui était la dernière chiffre que j'ai évoqué. Donc, pour les produits fumés et les légumes, était une somme franchement énorme. Parce que, bon, on peut la calculer de façon variée, mais elle se rapprochait à le patrimoine que devaient déclarer les chevaliers. Donc, la classe, la deuxième classe la plus riche dans le système. Alors, on peut se dire qu'il y avait des dépenses très limitées sur d'autres, probablement sur d'autres mets, sur d'autres nourritures, mais que pour ce qui concerne la viande fumée et les légumes, il n'y avait pas trop de limites. Peut-être parce qu'il fallait prendre en compte aussi la nourriture pour toute la famille aussi des esclaves. Alors, je pense qu'il y a là encore quelque chose à comprendre du point de vue du fonctionnement de ces limitations. Ce qui semble en revanche, disons, très limité, c'est la consommation de viande, disons, qui est achetée jour par jour. Pas la viande fumée. Donc vous voyez ici en relief dans boucher. Alors là, c'est très compliqué parce que vous voyez ici, c'est lui. Bon, vous voyez à peu près toute sa marchandise. Il tient un couperet de sa main droite. Il est en train de débiter une pièce de viande. Tête de porc, peut-être. Vous voyez de pièces de suidés, hure, jambon, tétine truie, un porc et aussi un poulet. Alors, le mystère, c'est cette phrase. Ça serait très intéressant, peut-être aussi amusant d'essayer de la traduire, mais nous ne le faisons pas. Alors, ce que je pense, au-delà des chiffres, c'est que l'idée de cette loi Fania était plutôt de limiter l'abus des banquets. Les banquets auxquels les aristocrates s'y convient mutuellement et qui se traduisent dans des stratégies de pouvoir. Donc, l'objectif de cette loi était celui de garantir une relative égalité dans la compétition pour le pouvoir, puisque donc, le principe était qu'il y avait des élections, et donc il fallait pas trop abuser de banquets en fonction électorale, donc, pour le dire de façon très, très simple. Et donc, je pense qu'on peut voir dans ces lois une forme d'autorégulation de la classe dirigeante. Donc, c'est pas une idée révolutionnaire. Je pense qu'il y a un consensus à ces sujets, à peu près, même si ce type de législation est toujours, disons, au centre de l'attention des chercheurs. Alors, vous voyez ici un banquet et c'est une fresque qui provient de Pompéi. On l'appelle la villa à partir de cette fresque, on l'appelle la villa des Chastamans. Mais je vous avoue que en le voyant, je suis pris par un malaise, parce que je pense que il y a ici une scène où on voit très bien l'effroi de cette femme. Donc je ne suis pas tout à fait à l'aise lorsque je regarde cette fresque. En tout cas, c'est une scène de banquet. Et donc c'est ça que le législateur avait en tête lorsqu'il a pensé à la loi Fannia. Donc on sait que le sort de loi est le sort de loi qui entre en contradiction avec les désirs est toujours de les attiser la transgression. Et c'est justement de ça que nous parle un écrivain érudit qui s'appelle Athénée, qui est né à Naucratis en Égypte vers 170 après Jésus-Christ, dans son ouvrage « Les Deipnosophistes », c'est-à-dire « Le banquet des sages ». Alors, de quoi s'agit-il? Deux mots sur cet ouvrage. Il s'agit essentiellement d'une collection d'anecdotes, des citations. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une lecture vraiment amusante, paisible. Donc il y a des anecdotes. C'est une collection d'anecdotes. Il y a un cadre fictionnel, un cadre narratif, mais ce n'est que le prétexte pour amasser des milliers de citations. On a fait le décompte, 1500 sont les ouvrages qui sont cités, provenant de 700 auteurs. Donc c'est comme si les anecdotes, les citations étaient prononcées par les participants à un banquet, le banquet des sages, que l'auteur, disons, propose que ce soit déroulé à peu près à la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ. Mais on pense que l'auteur lui-même l'a écrit quelques décennies plus tard. Alors, parmi les convives très érudits, il y a aussi un Ulpien. Et donc, on pense que c'est justement l'Ulpien, juriste dont nous avons déjà parlé, dont je vais parler dans quelques minutes dans mon séminaire sur Ulpien de Officio Proconsulis. Et c'est quelqu'un qui, par exemple, dans le livre que nous allons, dans le livre d'où est tiré l'extrait que nous allons lire, c'est le sixième livre, pose des questions et donne, si vous voulez, les sujets sur lesquels les autres interviennent. Alors, permettez-moi de vous présenter les autres noms que vous voyez ici. Alors, d'abord, il y a celui qui est probablement la source de l'extrait que nous allons lire, c'est-à-dire... Il est tiré des hypnosophistes d'Athénée, mais lui, Athénée, l'a pris de Posidonios. Posidonios était un philosophe, brillant représentant du moyen stoïcisme. Il a été un des maîtres de Cicéron. Et donc, il connaissait les protagonistes de ces épisodes. Non, trois juristes. Les voilà, enfin. Alors, Quintus Mucius Scaevola, qui fut consul en 95 et qui fut probablement le plus important avec Servius des juristes de l'époque républicaine, auteur d'un livre qui s'appelle Ius Civile. Son ami Publius Rutilius Rufus, un juriste variant lui également, qui fut consul 10 ans avant, et Quintus Elius Tuberon, qui est l'ancêtre du juriste du même nom que nous avons rencontré à propos de l'ameublement. Et donc, vous, je pense, vous vous souvenez du fait que ce Tuberon-ci était celui qui, à cause de sa modestie, de sa sobriété, donc il avait offert un banquet funéraire pour Scipion l'Émilien, mais qui ne, n'offrait que pour s'asseoir des peaux de bouc, avait été repoussé à l'élection à la préture. Et donc, vous voyez qu'il n'a pas fait la même carrière que les autres, parce qu'il est resté tribun de la plèbe. Alors, je ne peux pas développer davantage, mais je pense que tous ces épisodes proviennent plus ou moins du même contexte, de même source. Alors, je pense qu'il faut avoir un peu de patience, mais nous allons lire ce texte et comprendre quel est l'enjeu. Alors, Mucius Scaevola est l'une des trois personnes à Rome qui a montré qu'il respectait la loi Fannia. Lui, en effet, Aelius Tuberon et Rutilius Rufus, Rufus celui qui a écrit une histoire de sa patrie. Donc Rufus était aussi un historien. Et je le dis tout de suite, c'est probablement Rutilius Rufus qui a écrit une histoire de sa patrie, qui est la source de cet épisode qui est passé à Posidonios et qui est passé à Athénée. Donc la loi Fannia, on le sait très bien, on l'a appris aujourd'hui, défendait de recevoir chez soi plus de 3 personnes du dehors et 5 personnes le jour du marché, qui se tenait 3 fois par mois. Elle ne permettait pas, non plus, de dépenser à chaque repas plus de 2 drachmes et demi. Elle laissait la liberté de consommer par an 15 talents pesants de viande enfumée, sans borner les herbages qui croissent spontanément et les aliments cuits qu'on pouvait préparer des plantes potagères. Et pourtant, même si cette loi avait limité leurs dépenses à un niveau très bas, ceux qui enfreignaient la loi en dépensant sans économiser faisaient grimper les prix des biens achetés. Néanmoins, les 3 juristes que j'ai mentionnés ont réussi à atteindre, dans le respect total de la loi, un mode de vie un peu plus libéral. Ainsi, Tuberon achetait des fermiers de ses propres terres, des volailles, 1 drachme la pièce. Rutilius se faisait fournir par ses esclaves pêcheurs du poisson à raison de 3 oboles la mine, donc à peu près 346 grammes. Surtout celui qu'on appelle Turien, c'est une partie du chien de mer qui porte ce nom, l'aguilla commun, j'ose dire ça. Quant à Mucius, il achetait de ceux à qui il faisait du bien et payait le prix en se réglant sur la même conduite. Ce furent donc les seuls qui, dans tant de milliers d'hommes, observèrent la loi selon la teneur de leur serment et ne récurent jamais le moindre présent. Ils en firent au contraire à d'autres et à ceux de leurs amis qui, de leur enfance, se portaient à des grandes choses, car ils étaient attachés aux principes de la philosophie stoïcienne. Donc, ça, c'est le passage d'Athénée. Alors, donc d'abord, il est fort possible que, comme cela a été montré par Jean-Louis Ferrari, cette anecdote provient de l'histoire romaine de Rutilius. À travers les histoires de Posidonios, qui, lui, aurait souligné la sympathie stoïcienne des 3. Donc, on savait très bien que Tuberon et Rutilius étaient des adeptes du stoïcisme. C'est la seule source qui dit la même chose de Mucius, donc on peut penser que c'est Posidonios qui a voulu un peu exagérer ce côté, parce qu'il était lui-même un stoïcien, un philosophe stoïcien. Alors, deuxième remarque, on ne comprend pas très bien pourquoi on parle de la loi Fannia, parce qu'il y avait eu deux lois successives, et tout particulièrement une loi Licinia, du vivant des trois. Donc, on ne comprend pas pourquoi on parle seulement de la loi Fannia. C'est un détail. Troisième aspect, alors, ce témoignage, cet épisode, semble avoir des points communs avec le sujet d'une des fresques très récemment retrouvées dans une villa près du fleuve Aniene, à quelques kilomètres de Rome. Cette fresque reproduit un mémorandum, une liste de dépenses, qui souligne justement la frugalité des repas servis dans ce bâtiment. Et dans les fresques, on retrouve le nom de Mucius et le nom de Rutilius. Donc, on a pensé qu'on pouvait faire ce rapprochement. Quoi qu'il en soit, car le débat sur cette villa est trop récent pour que je puisse l'aborder ici, je veux seulement souligner que dans ce cadre, donc dans le cadre de discussion de cette fouille, il a été confirmé par Felice Costabile que, comme le pense Jean-Louis Ferrari, le Mucius dont parle Athénée dans ce texte doit être Quintus Mucius le pontife et non pas l'un des autres personnages eux-mêmes des juristes qui portent le même nom. Donc c'est tout ce que je veux dire à ces propos. Mais ce qui m'intéresse, qui n'a pas, à mon sens, été trop étudié, est comment ont-ils pu obéir à la loi Fannia et satisfaire leur palais. Alors, réponse, ils ont acheté l'aimé à des prix plus bas. Tubéron achetait à des fermiers de ses propres terres, des volailles, une drachme la pièce. Je ne veux pas vous convoiter à faire des calculs, des équivalences. Je pense qu'il s'agit à peu près de 10 as. Donc le prix d'achat équivaut à 10 as, ce qui permet de ne pas dépasser la somme de 10 as qui était celle des jours du repas des jours ordinaires. Et cela veut dire que Tubéron pouvait offrir à ses conviés un poulet. Bon, c'est tout, sans dépasser la loi Fannia. Donc, un poulet pour 3 personnes ou pour 5 personnes. Rutilius, lui, se faisait fournir par 16 esclaves pêcheurs du poisson à raison de 3 oboles la mine. Si également, on peut penser que ça équivalait à pouvoir offrir à peu près 700 grammes de poisson pour chaque repas. Quant à Mucius, on ne parle pas de chiffres, mais on comprend qu'il négociait avec ceux qu'il avait bénéficiés pour qu'ils lui vendent des aliments à prix réduit. Alors, c'est une information assez intéressante parce que ça montre qu'un juriste, oui, il donnait des conseils de façon gratuite, mais que ça enclenchait un circuit de dons et, dont nous voyons ici une trace. Et il faut rajouter que Mucius, Quintus Mucius, le consul de 95, était aussi un 95 était aussi un orateur. Et donc, je pense qu'ici, il y a une référence aussi à son respect de la loi Cincia. Alors, je pense que vous êtes un peu perplexe, comme je le suis, face à ce type de témoignage. Parce que je me dis, mais est-ce que c'est vraiment de la bonne foi? Est-ce qu'ils ont vraiment respecté? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un accomplissement dont il faut être fier? Bon, alors, il faut d'abord souligner encore une fois que cette information provient probablement de Rutilius, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, vient de l'un des protagonistes. Donc, je pense que s'il l'a relaté, c'est parce qu'il en était fier. Donc, je ne pense pas qu'on a voulu faire de l'ironie sur les trois juristes, d'abord. Ensuite, il faut rappeler que la figure de Rutilius était une figure vraiment exemplaire, parce qu'il avait été condamné injustement, parce qu'il avait résisté à des extorsions de publicains. Et quant à Mucius, on a dit de lui, Cicéron, la phrase qui me paraît la plus belle qu'on puisse dire d'une personne, « Sa dignité était si haute que personne ne peut se permettre même d'en faire l'éloge. » Donc, il n'y a pas de doute, il s'agit de personnes vraiment honnêtes. Et pourtant, nous sommes un peu déçus. Cela nous semble être un stratagème, et ce qui est pire, un stratagème typique de la chicanerie des juristes, disons-le. La première observation que je peux faire à ce propos est que, suivant le récit d'Athénée, ils ont réagi à une hausse des prix qui avait été provoquée par le non-respect de la loi par les autres citoyens. Alors, je pense que les trois juristes ont réfléchi à la volonté du législateur et ils ont dû se dire que la loi Fannia n'était plus adaptée à leur époque, car l'inflation l'avait rendu inapplicable. Donc, il ne conteste pas le fond de la loi, mais il comprend que la hausse des prix l'avait rendu inapplicable. Donc, d'abord. Deuxièmement, et ce qui est plus important pour notre discours qui va arriver dans 5 minutes à la fin, je pense que la démarche qu'ils ont adoptée a été celle de sortir du marché, si je peux le dire. Alors, quant au marché, vous voyez ce bas-relief qui provient d'Ostie, propriétaire a les chevaux tirés en chignon, et tient 2 grands récipients remplis de nourriture, probablement des miches de pain ou des fruits, sur les comptoirs devant elle. Les sculpteurs inconnus ont représenté la femme au moment de la vente à un client, visible à sa droite. Derrière l'épaule de la propriétaire, on distingue la silhouette d'un autre vendeur, peut-être un esclave, aux chevaux courts, expression peut-être rieuse. À gauche de la maîtresse se trouve un grand récipient cylindrique avec des petits trous ronds, un petit escargot sculpté à côté, illustre son utilisation. Il s'agit en fait d'un panier dans lequel on conservait des escargots vivants, prêts à être vendus. En bas à droite, on trouve une cage à lapins avec les têtes des animaux qui dépassent entre les barreaux. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Des 2 petits singes qui servaient, bien entendu, à attirer les clients. Et à gauche, nous voyons 2 hommes, peut-être parle-t-il de la qualité des marchandises, en particulier du lapin, que l'homme de gauche tient par les pattes. Alors, parmi ces clients, nous ne verrions plus les 3 juristes, car ils ont quitté le marché où les prix sont définis par l'offre et la demande. Alors, vous pourriez encore me dire qu'il s'agit d'un détour, Mais il faut rapprocher, pour conclure, cet épisode à un autre qui concerne toujours Mucius, relaté cette fois-ci par Cicéron. Quintus Scaevola avait demandé qu'on lui fît connaître, une fois pour toutes, le prix d'un fonds de terre qu'il voulait acheter, et quand le vendeur l'a fait, Mucius dit que son estimation à lui, à Mucius, était plus élevée, et ajouta 5000 sesterces. Personne ne contestera, c'est le commentaire de Cicéron, que cette façon d'agir de Mucius est celle d'un honnête homme. Mais elle n'est pas, dira-t-on, d'un homme sage. C'est comme s'il avait vendu son bien à un prix inférieur à celui qu'il aurait pu en tirer. Le payer plus cher, le vendre à un prix inférieur, c'est la même chose. Et c'est précisément là qu'est le mal, commente Cicéron. On oppose la droiture à la sagesse, donc utile et honesto. Ennius dit à ce sujet, n'est point sage qui est incapable de ses biens servir lui-même. J'approuverais, dit Cicéron, si j'étais d'accord avec Ennius sur l'essence de ces mots, se bien servir soi-même. Je vois qu'Hécaton d'Hérode, un disciple de Panétios, donc c'est un élève, un élève du même maître de Posidonios, donc c'était un philosophe de la même époque de Posidonios, dit Hécaton, dans l'ouvrage qu'il a dédié à Quintus Tuberon, l'un des trois, donc vous voyez, il est d'un sage d'avoir souci de son propre avoir sans rien faire de contraire aux coutumes, aux lois et aux institutions en vigueur. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes que nous voulons être riches, c'est pour nos enfants, nos proches, nos amis, surtout dans l'intérêt de l'État. Les ressources, les fortunes des particuliers font la richesse de la cité. Alors, ce philosophe, Hécaton, n'aurait certes pas goûté les désintéressements qu'a montré Scaevola dans l'affaire dont je parlais ci-dessus. Il ne s'interdit en effet, le philosophe, pour grossir son avoir, que ce qui est interdit par la loi. Il n'y a pas là de quoi se glorifier. Et à la fin, Cicéron dit, je pense que Mucius Scaevola était un homme sage, honnête homme, car sa définition de vir bonus est celle que vous voyez ici, c'est lui qui se rend utile à ceux qu'il peut aider et qui ne nuit à personne. Donc, par le biais de cette définition, il justifie la démarche de Scaevola. Alors, on ne peut pas commenter exhaustivement ce passage, mais nous y voyons Quintus Mucius Scaevola adopter la même démarche, quitter le marché. Donc, il n'a pas voulu, disons, adopter l'évaluation qui lui était proposée, mais il a préféré faire son propre prix, cette fois-ci en sa défaveur. On a, si j'ose dire, un réflexe qui permet à ces juristes de détacher les droits du fonctionnement du marché. Aujourd'hui, on est très convaincu qu'il y ait une sorte de loi du marché qui s'impose partout. Ils étaient prêts à s'en détacher. Donc, bien entendu, parce qu'ils avaient une conscience bien moins aiguë du marché. Donc, le marché qu'ils voyaient était le marché que je vous ai montré sur le bas-relief. Donc, ce n'était pas vraiment le marché au sens virtuel que nous connaissons. Et donc, leur économie morale a comme point de repère, d'un côté, la loi, et de l'autre côté, ce n'est pas tant le marché, mais leur éthique, qui n'est pas mise en cause par le système des prix. C'est, à mon sens, un indice que pour comprendre les Romains, il faut pousser les marchés un peu plus loin et intégrer dans leur horizon un ensemble de valeurs qui en détermine l'action. Alors, c'est le même cadre que nous avons parcouru en examinant les lois qui imposent des limitations à l'autonomie des particuliers, parce que c'était des limitations qui ne visaient pas ou vraiment de façon très marginale à des objets, à des buts de caractère économique ou financier, mais c'était des limitations qui étaient imposées par des réflexions politiques, sociales, morales. Alors, pour revenir, donc vous voyez quel était mon but, c'était de montrer de façon très concrète qu'est-ce que je pense être l'économie morale à Rome. Et pour revenir à nos trois juristes, je ne sais pas si Caton aurait apprécié ce qu'ils ont fait, car Caton, vous le savez, il était toujours un peu mécontent, mais je pense que nos trois juristes ont montré qu'ils n'étaient pas plus sensibles au palais qu'au cœur. Et donc, je vous remercie vivement.